Donc, bonsoir à chacun. On est bien heureux que vous soyez revenus après 2 semaines. Pour Raymond et Raymond, ça fait 3 semaines. Mais on est là ce soir pour continuer notre étude sur l'Épître aux Éphésiens. On est dans le chapitre 4. On va continuer ce soir. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste vous mentionner de ne pas oublier ceux qui veulent venir à la conférence de Rivière-du-Loup d'envoyer votre inscription pour. Parce qu'il faut savoir le nombre pour les repas. C'est que envoyez ça. Vous aviez reçu. Denis avait envoyé à tout le groupe l'invitation pour la conférence à Rivière-du-Loup. C'est que n'oubliez pas de vous inscrire pour qu'on puisse savoir le nombre de ceux qui vont être là pour les repas. C'est ça. On va commencer notre étude. On était dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. On avait commencé parce que, comme on avait dit, c'est. Il y a 5 façons de marcher. Selon, on avait vu la doctrine dans les premiers chapitres. Puis maintenant, ben, c'est dans la pratique, comment on met ça en pratique dans la vie chrétienne. Puis on avait parlé premièrement, de marcher d'une manière digne de la vocation. Donc, c'était l'unité de l'esprit que le Seigneur a fait. Il nous s'agit de la garder. C'est dans le chapitre 4, verset 1. Ensuite, on avait commencé la semaine passée on ne doit plus marcher comme les païens. Dans le chapitre 4, verset 17, on va continuer, finir ça. Il nous en restait un peu à faire là-dedans. Après ça, c'est marcher dans l'amour, dans le chapitre 5, au verset 2. Puis dans le chapitre 5, au verset 8, c'est marcher comme des enfants de lumière. Puis dans le chapitre 5, au verset 15, c'est de se conduire, mais c'est le même mot qui est traduit marcher dans les autres instances. Donc, c'est le mot de vous conduire avec circonspection. Ça, c'est le chapitre 5, le verset 15. La semaine passée, c'est ça, on avait commencé avec vous ne devez plus marcher comme les païens, puis on va relire notre passage à partir du verset 17 dans le chapitre 4. Donc, 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme, pardon, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va demander son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour l'instruction que tu nous donnes. On te remercie pour le salut que tu nous donnes. Mais quand tu nous as sauvés, Seigneur, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous as donné ta parole, tu nous as donné ton esprit pour nous conduire, puis tu nous as donné comme chef suprême ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour toutes ces choses, Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te dire merci parce que tu prends soin de nous jusqu'à ce que nous soyons dans ta présence pour l'éternité. Mais en attendant, donne-nous un bon temps ce soir, Seigneur, dans ta parole, qu'on puisse être encouragé, édifié en te connaissant de plus en plus, puis en te remerciant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, c'est ça. La semaine passée, on avait parlé, on avait commencé dans ne plus marcher comme les païens, puis on avait dit que les païens, bien, ils marchent selon la chair, ils marchent aussi selon le monde, Puis il marche aussi selon le diable. Ça, la chair, c'est les versets 18 à 19. Puis la chair est toujours un obstacle pour marcher dans le Seigneur parce que la chair nous rend individualistes parce que le Seigneur nous a parlé avant de marcher dans l'unité de la foi, dans l'unité de l'esprit. Donc, pour marcher dans l'unité de l'esprit, il faut renoncer à la chair parce que la chair va toujours être une entrave à nous pour marcher dans l'unité de l'esprit. Mais le monde aussi, lui, c'est par la conformité. Le monde, il veut nous conformer à lui-même. Et ce qu'on a vu, c'est que le monde, si on est conformé au monde, ben, lui, il est conformé au prince de la puissance de l'air, qui est Satan, puis de marcher dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Mais maintenant, on va regarder le diable. Le diable, lui, utilise le péché pour semer la discorde parmi nous. Donc, on voit ici, on va commencer dans les versets 25 à 32, là, et il nous parle ici, il nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, on voit ici, c'est de ne pas donner accès au diable, c'est d'être vrai dans quand tu parles de mensonge, c'est d'être vrai dans notre relation. De pas, des fois, on peut essayer de montrer une image fausse de nous-mêmes, mais c'est d'être vrai dans notre image. Puis, quand le Seigneur Jésus a vu venir à lui Nathanaël, il a dit de lui dans Jean 1, 47, « Voici vraiment un Israélite dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » C'est dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui était vrai. Puis, mais Nathanaël était surpris, puis il a dit, « D'où me connais-tu? » Puis le Seigneur lui a dit, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Donc, le Seigneur était, à ce point-là, Nathanaël a réalisé que le Seigneur Jésus était le Dieu avec qui il était sous le figuier. Et il a reconnu que le Seigneur Jésus était vrai. Mais lui-même, Nathanaël, était quelqu'un qui était vrai. C'est pour ça que le Seigneur a dit ça, qu'il n'y avait pas de fraude en lui. Puis, on voit qu'il n'avait pas de fraude parce qu'il a reconnu le Seigneur Jésus, parce qu'il était vraiment dans une relation réelle avec le Seigneur Jésus. Donc, de ne pas donner accès au diable, comme il dit au verset 27, et ne donner pas accès au diable, c'est qu'il faut faire attention, parce que le diable va utiliser la chair et le monde pour semer le trouble, pour éparpiller, pour pas qu'on marche ensemble. Mais le Seigneur, lui, est un berger qui rassemble, mais le diable est un loup qui disperse. Il faut toujours comprendre ça. Le Seigneur, il veut toujours nous rassembler, mais parce qu'un berger rassemble ses brebis pour les nourrir, pour en prendre soin, c'est beaucoup plus facile de prendre soin d'un troupeau qui est rassemblé. Mais si un troupeau est. Le loup, lui, veut les éparpiller pour les détruire. C'est toujours le but. Puis, si on est comme avant, ben dans Tite 3:3, il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Donc, si on est dans cette atmosphère-là, ben, ça va être difficile pour nous autres de vivre ensemble dans l'harmonie, dans l'amour du Seigneur Jésus. Il faut vraiment que maintenant, on puisse marcher selon le Seigneur, puis être délivré des choses que l'ennemi va vouloir détruire. Il va utiliser pour nous détruire. Vous savez, le monde ne s'unisse pas parce qu'ils n'ont pas de motif assez grand. On le voit aujourd'hui avec tout ce qu'on voit, les guerres qui se passent présentement. Il n'y a pas d'unité dans le monde. Puis le monde ne s'unisse pas parce qu'ils n'ont pas un motif assez grand. Puis vraiment, la seule façon que le monde s'unit, ben, c'est contre le Seigneur. Quand ils peuvent s'accorder là-dessus pour s'unir contre le Seigneur. Parce qu'on pense à la tour de Babel, hein. Ils se sont unis, il y avait une seule langue, ils formaient un seul peuple, il y avait une seule langue, puis ils ont construit une tour. Cette tour-là, la tour de Babel, c'était pour résister à Dieu. Résister à Dieu, c'était après le déluge. Puis quand le déluge est venu, ben, le déluge d'eau était au-dessus de toutes les montagnes. Ils se sont construits, c'est un peu un défi qui rendait à Dieu en disant, ben, si jamais Dieu ne pourra plus nous juger, parce qu'on va pouvoir monter dans la tour, c'est un peu comme si on allait pour attaquer le ciel. C'est une tour qui allait, mais il dit, le Seigneur les a dispersés. Mais dans le psaume 2, au verset 2 à 3, il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ça. Donc, le monde, quand ils s'unissent, c'est pour s'unir contre Dieu. Puis le seul temps où ils vont sembler accomplir la paix, parce qu'il va y avoir un semblant de paix qui va venir sur la terre avec l'homme, la bête politique, et qui vont sembler accomplir la paix et l'harmonie, ça va être avec la bête politique pour aller contre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça va être avant que le Seigneur Jésus vienne pour juger, puis ils vont s'unir. Dans Actes 4, 26, il dit, les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Donc, il cite ici le psaume dans sa prédication. Mais dans Luc 23, 12, on voit que ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pourquoi qu'ils sont devenus amis? Ben, c'était pour juger le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit que le monde dans lequel on vit, ils s'unissent quand ils veulent s'unir contre Dieu pour résister à Dieu ou pour empêcher Dieu d'amener le jugement sur la terre. Mais de marcher comme les païens, c'est l'opposé de marcher d'une façon digne de la vocation dans laquelle on était appelé, parce que, comme on a vu, il y a la chair, le monde et le diable, c'est leur façon qui marche d'après ces trois choses-là. Mais donc, on va voir qu'il va parler de mensonge. Mensonge, ben, c'est de ne pas être vrai. Il va parler de colère, de ne pas être contrôlé par la colère. Il va parler de dérober. Donc, au lieu de dérober, c'est de donner. Puis il va parler de paroles mauvaises. Au lieu de cela, ça devrait avoir des paroles d'édification. Puis ensuite de ça, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. Mais pour ne pas attrister le Saint-Esprit, il faut marcher dans l'obéissance. Donc, on a besoin de faire attention à nos communications. Comment qu'on réagit entre nous, là, c'est important. Si on regarde dans le. Attendez, dans, okay, dans le verset 25, il nous dit, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, le mensonge, c'est un problème. Par le mensonge, c'est comme si on peut faire mourir quelqu'un par le mensonge. Mais le mensonge, c'est de ne pas dire la vérité entre nous. Puis, les païens, eux, ils n'hésitent pas à dire des mensonges, des fois pour se sortir de situation ou pour arriver à leur fin. Mais pour nous, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être parmi nous. Il dit aussi, c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. À cause de notre relation intime, il faut être vrai les uns envers les autres. Vous savez, des fois, même on peut, sans dire un mensonge, on peut communiquer un mensonge. Il y avait quelqu'un qui disait l'exemple que c'est comme sur un bateau, mais il y avait le livre de bord, puis on devait écrire qu'est-ce qui se passait dans le livre de bord. Puis le premier homme de bord, il s'avait saoulé cette journée-là, puis le capitaine l'a marqué dans le livre de bord. Il avait écrit le premier officier a pris un coup aujourd'hui. Puis là, l'officier dit, pourquoi tu as écrit ça là-dedans? Ben, il dit, c'est la vérité, on l'écrit là-dedans, c'est ça. On écrit le journal. Fait que le premier officier, qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Il a écrit dans le livre de bord, le capitaine était sobre aujourd'hui. C'était vrai, mais ça faisait comme s'il n'était pas sobre d'habitude. Ça fait qu'il avait dit la vérité, mais ça communiquait un mensonge. Ça fait que ça faisait penser que c'était vrai qu'il était sobre, mais ça faisait penser que d'habitude, il ne l'était pas si on en faisait la remarque ce jour-là. Ça fait qu'il faut faire attention dans notre façon de communiquer toujours la vérité entre nous, parce que c'est important, parce qu'on est membres les uns des autres. Ensuite de ça, il dit au verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, des fois, il y a des raisons d'être en colère, mais dans la colère, il ne faut pas se laisser contrôler par la chair à ce moment-là, parce que la chair, elle peut faire des choses qui vont blesser dans la colère des fois. Vous savez, on peut dire des choses ou faire des choses qui peuvent briser la relation pour longtemps. Fait que dans la colère, s'il y a un sujet d'être en colère, ben, il faut pas agir par la chair. Il y a un temps pour dire la vérité dans des choses, régler des situations, c'est important, mais il faut pas. Puis aussi, c'est de régler les choses rapidement. Parce qu'il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que s'il y a une dissension entre deux personnes, puis même comme dans le couple, on le voit aussi, si on ne se parle pas, ben ça va s'envenimer parce que c'est comme si on prend deux chemins différents, puis on avance dans des choses qui sont des perceptions. Et lorsqu'on se parle, on s'aperçoit des fois qu'il y a bien des choses qui étaient des perceptions, ce n'était pas la réalité. Puis c'est plus facile de régler les conflits aussi vite que possible pour pas que ça s'envenime avec le temps. Donc, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est un bon temps quand on voit le soleil se coucher, il dit, oups, il faut régler les choses. Donc, c'est important dans notre relation ensemble. Ensuite de ça, au verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable parce que ces choses-là donnent accès au diable dans notre relation. En verset 28, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc, ça, c'est tous des péchés dans les relations entre nous autres qui peuvent être au détriment de la relation. Donc, il dit de ne pas dérober, mais plutôt, il donne le positif, ça, c'est le négatif, mais il donne le positif, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Donc, de donner, c'est l'opposé de dérober ou de voler. Vous savez, si quand on donne quelque chose, mais celui qui dérobait, sa vie change pour que maintenant il travaille de ses mains, pour que, en faisant ce qui est bien, puis qu'il soit capable maintenant d'être généreux envers les autres dans nos relations. Et puis ensuite de ça, ben ça c'était pour dérober. Mais au verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Là maintenant, ben, c'est les paroles. Dans nos paroles, il faut faire attention pour qu'on puisse communiquer quelque chose. Quand on passe du temps ensemble, vous savez, c'est à se demander, est-ce que notre conversation, est-ce que nos conversations, c'est quelque chose qui encourage, qui édifie, qui console, qui réconforte, qui exhorte? Parce que c'est notre façon de parler entre nous autres, là. Ce n'est pas des paroles mauvaises, mais des bonnes paroles, des paroles qui vont encourager, édifier, consoler, réconforter, puis exhorter. Mais où est-ce que quand je passe du temps avec mes frères, mes soeurs, est-ce que je les décourage? Des fois, on peut avoir des conversations qui sont décourageantes ou qui incitent à la tentation. Des paroles mauvaises qui peuvent inciter les autres à la tentation, puis qui vont les détruire aussi. Ça va détruire parce que, vous savez, on laisse une odeur dans notre conversation ou qu'on va attrister nos frères, nos sœurs. Donc, il faut faire attention, il faut faire attention à ça. Quand on passe du temps ensemble, mais ça doit être, quand on va dans le monde, on est attristé, puis on est incité à la tentation. On est découragé, puis on est détruit aussi dans le monde. Mais quand on vit ensemble, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que dans le monde, c'est comme ça que ça se passe, mais quand on vit ensemble, quand on passe notre temps entre nous autres, ben, il faut que ça soit encourageant. Il faut que ça soit comme un refuge. En sortant des choses du monde, ben, qu'on est ensemble, c'est un refuge, puis ça devient plaisant d'être ensemble. Donc, c'est important ça. C'est toujours de remplacer le mal par le bien. Puis, comme on voit le verset 31. Mais le verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, c'est d'être obéissant au lieu d'attrister le Saint-Esprit. Mais au verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, c'est des choses qui ne devraient pas être parmi nous quand on est ensemble. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui détruisent, c'est des choses qui découragent, des choses qui incitent à la tentation puis qui attristent aussi. Fait qu'il faut faire attention dans nos conversations ensemble. Puis au verset 32, ben, le positif, c'est soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est sûr qu'on a besoin de se pardonner constamment parce que puis on a besoin d'être pardonné, donc on a besoin de pardonner les autres aussi. C'est important qu'on puisse se pardonner les uns les autres pour qu'on puisse, puis même s'exhorter. Si des fois on branche, ben c'est bon d'être capable d'exhorter l'autre, puis l'autre capable de recevoir l'exhortation aussi. C'est toujours pour notre bien. Donc ça, c'est la façon de marcher selon les païens. Maintenant, on n'est plus parmi les païens, on a été racheté à un grand prix, on appartient au Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est la façon qu'on doit marcher ensemble maintenant, plus comme les païens, mais étant éclairés. Puis là, on va voir dans le chapitre 5, maintenant, ça va être de marcher dans l'amour. Au verset 1 du chapitre 5, il dit: Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui serait livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune peur avec eux. Donc ici, il nous parle de marcher dans l'amour. Puis il dit, comme des enfants bien-aimés. C'est intéressant de voir qu'il nous demande de marcher dans l'amour, mais il nous appelle des enfants bien-aimés. C'est sûr qu'on est des enfants bien-aimés de Dieu. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on peut dire que comme Jean, qui se nommait lui-même le disciple que Jésus aimait. Puis, chacun de ceux qui sont sauvés peuvent dire qu'on est le disciple que Jésus aimait. Puis, même avant qu'on soit sauvés, on peut dire, parce que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. Il est mort pour nous. Donc, quand il dit ici, comme des enfants bien-aimés, ça, c'est de la réalité. On est des enfants bien-aimés. Donc, il dit, comme étant des enfants bien-aimés, on doit marcher. On doit être des imitateurs de Dieu, puis marcher dans l'amour. On pense à Josué et Caleb là, dans le peuple d'Israël, parce qu'on a beaucoup de similarités on peut faire des comparaisons avec le peuple d'Israël, puis parce qu'eux, ils étaient le peuple de Dieu. Maintenant, c'est l'Église qui est le peuple de Dieu pour l'instant. Le Seigneur va revenir avec Israël plus tard, mais il les a mis de côté pour un temps. Même s'ils sont encore son peuple, il en prend soin, il les préserve, mais il a affaire à eux, il va leur parler dans le futur. Mais on pense à Josué et Caleb qui, eux, étaient prêts à aller pour conquérir le pays que Dieu leur donnait, le pays de Canaan. Puis ils ont donné un bon rapport du pays et ils avaient la foi de savoir que même s'il y avait des géants dans le pays qui étaient capables de conquérir le pays, mais ils savaient une chose, qu'il fallait qu'ils soient ensemble, qu'ils soient unis, il fallait qu'ils marchent d'une manière digne de la vocation. Ils ne pouvaient pas, eux, à leur deux, aller conquérir le pays. Il fallait qu'ils soient avec le peuple et le peuple n'était pas prêt à y aller. Les autres 10 espions, ils ont décrié le peuple devant le pays, devant le peuple, et le peuple n'a pas voulu, le peuple n'a pas voulu aller conquérir le pays. Il n'y avait pas la foi pour aller conquérir le pays. Caleb et Josué, ils ont dû rester en arrière avec le peuple. Ils ont passé 40 ans dans le désert, avec toutes les difficultés qu'ils ont eues à vivre pendant ces 40 années-là, mais ça prenait de l'amour pour ça. Parce qu'ils savaient qu'un jour, eux, ils ont rentré avec le peuple quand le peuple était prêt, mais ils ont attendu. Puis c'est l'amour qui pouvait les faire attendre comme ça. On ne voit pas dans la parole de Dieu, on n'était pas là pour voir qu'est-ce qui s'est passé, mais dans la parole de Dieu, on ne les voit pas critiquer quand il arrivait des problèmes, puis dire, ben là, c'est à cause de vous autres qu'on est dans ces problèmes-là. Mais ils ont persévéré, puis quand c'était le temps, là, sont allés par la foi, puis ils ont démontré la puissance de Dieu. Donc, ça prenait beaucoup d'amour pour passer 40 ans dans le désert là, avec un peuple qui était un peuple au courant. Mais de quelle façon qu'on peut faire ça? Ben, c'est en devenant les imitateurs de Dieu. Vous savez, on a l'exemple toujours parfait du Seigneur Jésus. 1 Jean 4,8 dit: Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, on a connu cet amour-là en Dieu. Puis la parole de Dieu nous parle beaucoup de l'amour de Dieu. Puis Jean est un de ceux qui nous en parle beaucoup aussi, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais une chose qu'on voit dans la parole de Dieu, le mot amour est toujours suivi de l'action. Quand il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez. Donc, on doit imiter le Seigneur dans l'amour, mais marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc, si l'amour dans la parole de Dieu, ce n'est pas un amour juste en parole. Des fois, il y a des gens qui vont dire, oh, je t'aime, mais quand c'est bien le temps de faire quelque chose, ils ne sont pas prêts à le faire. Mais l'amour dans la parole de Dieu est toujours lié à l'action. On voit ça, il dit, l'amour se manifeste par le don. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, on voit que c'est toujours par l'exemple, si, comme il dit ici, qui nous a aimés, dans le verset 2, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, on voit ici que nous, est-ce qu'on aime comme Dieu aime? Ben, on doit apprendre à aimer comme lui nous a aimés. Puis, on doit s'aimer les uns les autres. Puis, s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire de prendre soin les uns des autres. Ça veut dire que si je vois mon frère, comme Jacques dit, c'est si on voit un frère qui est destitué, qui a besoin, puis qu'on ne lui donne pas ce qu'il a besoin pour être son besoin soit comblé, mais comment on peut dire qu'on aime notre frère, là? C'est pas réel, là. Quand on voit quelqu'un, si on aime quelqu'un qui est dans le besoin, ben, on va se livrer pour lui, on va se donner pour lui. Puis justement, je suis en train de lire un livre des missionnaires, les cinq missionnaires qui ont été tués par les Oka le 8 janvier 1956. Ben, les autres étaient prêts à donner leur vie. Quand ils sont morts, il y avait un journaliste du Time Magazine, parce qu'ils ont fait un article là-dessus en 56, tout de suite après que c'est arrivé. Puis il avait dit qu'ils étaient prêts à donner leur vie. La femme de Pete Fleming, Olive, avait le journal de Pete Fleming. Puis les autres, ils disaient là-dedans que ma vie pour leur foi. Il avait écrit ça avant de mourir, il avait écrit ça dans son journal. Puis le journaliste a demandé à sa femme de voir le journal. Puis quand il a regardé ça, il dit, ouais, c'est intéressant. Donc il avait donné, les cinq missionnaires avaient donné leur vie. Puis Jim Elliot aussi, il était prêt à donner leur vie pour rejoindre ces gens-là avec la foi. Donc c'était des gens personne n'osait les approcher parce qu'ils étaient vraiment hostiles. Puis ils tuaient ceux qui venaient sur leur territoire. Mais eux, ils ont persévéré pour les rejoindre, ils ont donné leur vie, mais finalement, ils ont été rejoints pour l'Évangile. Puis les meurtriers, les cinq meurtriers des cinq missionnaires se sont tous convertis. Donc, c'était leur vie, ils ont donné leur vie pour qu'ils soient sauvés. Puis ensuite de ça, mais ils sont allés, ils ont formé des assemblées, puis ils sont allés rejoindre aussi, ils ont envoyé des missionnaires dans les autres tribus plus loin. Donc c'est ça, à marcher à l'exemple de Christ, comme il dit ici, de marcher à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Puis le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour qu'on soit sauvés. S'il n'avait pas donné sa vie, on n'aurait jamais été sauvés. Il a souffert. Puis il a donné sa vie, il est mort selon les Écritures, il était enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture. Donc on voit, puis ça, c'était une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu, parce que c'était pour nous sauver. Puis Dieu, qui nous aime, voulait qu'on soit sauvés. Fait que c'était une offrande que le Seigneur Jésus a faite. Il l'a faite par amour pour nous, il l'a faite par amour pour son Père. Parce que c'est tout un don qu'il fait à son Père maintenant, quand il va arriver avec ceux qu'il a rachetés par son sang, puis qu'il va les introduire dans la maison du Père. Donc ça, c'est le plus grand amour qu'on peut connaître sur la terre, là. C'est l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous, parce que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui a été manifesté pour des gens qui ne le méritaient pas. Même pour ceux qui étaient ses bourreaux, le Seigneur Jésus a pu dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis le centenier qui était là en voyant mourir le Seigneur Jésus a pu dire, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Le brigand sur la croix à côté de lui était sauvé aussi. Donc l'amour pour nos frères et nos sœurs doit prendre sa source dans notre amour pour Dieu. Parce que notre amour pour Dieu, c'est une réponse à son amour. Puis, mais l'amour pour nos frères et nos sœurs, elle doit vraiment prendre sa source dans notre amour pour Dieu. Dans Jean 21, 15, quand le Seigneur Jésus, après sa résurrection, il venait à Pierre pour lui parler, il voulait lui donner une responsabilité envers les disciples, les autres disciples, puis envers les brebis que le Seigneur Jésus aurait. Mais on sait que Pierre avait renié 3 fois de connaître le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur, il l'a restauré par ces paroles-là. Jean 21, 15, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et vous, le Seigneur lui donne une responsabilité envers ses agneaux, ces gens qu'il a rachetés au prix de son sang, puis il les confie à quelqu'un. Vous savez, le Seigneur a aimé son Église, il s'est livré lui-même pour elle, il la confie pas à n'importe qui. Mais il la confie ici à Pierre, puis aussi aux autres, à Paul, puis à nous autres aussi maintenant, qui servons le Seigneur dans son Église. Mais c'est quoi le barème pour prendre soin des brebis du Seigneur? Le Seigneur, il demande, m'aimes-tu? Pierre, il dit, il répond, oui, puis Seigneur, tu sais que je t'aime. Parce que tu m'aimes, paie mes brebis. Puis c'est le motif vraiment pour s'aimer les uns les autres, puis de prendre soin des uns des autres, c'est parce qu'on aime le Seigneur Jésus. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il disait au verset 1, là, comme des enfants bien-aimés. Donc, Dieu aime ses enfants. Puis si on aime Dieu, on va aimer ceux qui sont l'objet de l'affection du Seigneur. Est-ce qu'on peut voir nos frères et nos sœurs dans le Seigneur comme ceux que le Seigneur aime? Vous savez, quand on aime quelqu'un, ben nécessairement, on va aimer ceux qui l'aiment aussi. C'est ça que le Seigneur nous demande ici. Donc, lui, il nous aime tous, puis il veut que nous autres, on s'aime les uns les autres. 1 Jean 4, 20, il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Puis, il faut voir nos frères et nos sœurs comme ceux qui représentent le Seigneur Jésus. Puis on l'a vu en tant qu'on est le corps du Seigneur Jésus-Christ, chacun pour sa part. On est tous comme un membre du Seigneur Jésus-Christ, du corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment qu'on peut pas aimer? Si on dit qu'on aime le Seigneur, c'est facile de dire qu'on aime le Seigneur. Mais si on aime le Seigneur, ben, le Seigneur a dit à Pierre, ben, parce que tu m'aimes, paie mes brebis. Puis aime ceux que j'aime. C'est ça que le Seigneur nous demande ici, là. Puis comment est-ce que le Seigneur nous a aimés? Bien, il nous a aimés quand on n'était pas aimable. Des fois, on peut dire, ouais, mais là, c'est difficile d'aimer un tel. Ouais, mais le Seigneur, il ne nous a pas aimés parce qu'on était aimable, là. Puis nous autres, on ne doit pas aimer parce qu'ils sont aimables. Comme dans Romains 5, 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu, lui, nous a aimés quand on n'était pas aimable. Puis notre amour est seulement la réponse à son amour. Donc, on doit apprendre à aimer comme lui a aimé. De le suivre, c'est d'aimer en premier avant d'être aimé. C'est de gagner nos frères et sœurs. Si on a de la difficulté, la meilleure chose avec un ennemi, c'est de s'en faire un ami. Mais c'est de gagner les autres par l'amour. Puis, dans 1 Jean 3, 16, il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça c'est l'opposé de vivre une vie égoïste. Parce qu'on est porté à vivre une vie égoïste pour soi-même. On a vu ça quand on a parlé de pas marcher selon la chair, là. Mais selon la chair, ben, c'est de penser à soi. Mais selon l'amour du Seigneur, c'est de penser au Seigneur en premier, puis ensuite ceux qui appartiennent au Seigneur. Quand on lit le premier épître de Jean, là, on a une bonne idée de l'amour dans la pratique. Jean était quelqu'un, puis comment est-ce que Jean parle d'amour comme ça? Mais c'est parce que Jean connaissait l'amour du Seigneur Jésus pour lui. Hein, il se nommait, sans se nommer personnellement, il se nommait le disciple que Jésus aimait. Mais lui, Il appréciait tellement l'amour du Seigneur, mais on voit que Jean était rempli d'amour aussi pour les enfants du Seigneur, ceux qui appartiennent au Seigneur. Puis quand on lit dans le premier épître de Jean, il parle beaucoup d'amour. Puis c'est l'amour dans la pratique. Si on va dans 1 Jean 4, 12, on voit que Jean était, il amène ça dans la pratique. 1 Jean 4, 12, il dit ici, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, on ne peut pas voir Dieu. Mais quand on est dans l'amour ensemble les uns les autres, ben, c'est comme s'approcher le plus proche de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Fait qu'on connaît vraiment l'amour de Dieu ici quand on fait ça. Puis dans Jean 13, au chapitre 13 et au verset 35, Jean, on appelle des fois l'apôtre de l'amour, là. Ben, lui, il connaissait l'amour de Dieu, mais pas seulement la connaître, mais il la manifestait dans ses écrits ici, puis dans sa personne. Il dit, à ceci, au verset 35 de Jean 13, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, comme on a vu auparavant, on se haïssait les uns les autres quand on marchait comme les païens. Mais maintenant, ben, ils vont reconnaître à l'amour qu'on a les uns pour les autres, ils vont reconnaître qu'on est ses disciples, qu'on lui appartient parce que cet amour-là, elle vient de lui, puis elle est manifestée dans notre entourage. Donc, c'est important vraiment de connaître ça. Puis, si on marche dans l'amour, comme au verset 31 du chapitre 4, là, ben, il n'y aura pas d'amertume entre nous autres. Il n'y aura pas d'animosité entre nous autres. Il n'y aura pas de colère. Il n'y aura pas de clameur. Il n'y aura pas de calomnie. Puis ces choses-là, ce n'est pas facile. Vous savez, c'est un exercice constant là, de faire attention à ces choses-là. Puis il n'y aura pas aussi de méchanceté les uns envers les autres. Fait que c'est vraiment une belle atmosphère, mais ce n'est pas facile. Ça se fait par l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui nous convainc, qui nous donne la puissance d'agir. Ça ne veut pas dire que l'amour ignore le péché quand même. Il y a des gens qui pensent, oh ben, par amour, on passe par-dessus le péché. Il ne faut pas passer par-dessus le péché. Puis même quand on doit être dans la discipline, c'est l'amour qui discipline. Il faut que la discipline se fasse dans l'amour. Si la discipline ne se fait pas dans l'amour, ce n'est pas selon le Seigneur. Parce que c'est comme un enfant que son père châtie. Vous savez, il y a eu des abus dans le passé. Des fois des parents qui battaient les enfants, mais pas par amour. C'était comme pour se dérager. Puis ça a causé aujourd'hui qu'il n'y a plus de discipline dans les familles. Il n'y a plus de discipline parce que c'est comme une contre-réaction, une réaction de ce qui s'est passé dans le passé. Mais la discipline dans l'amour, ça vient de Dieu. Dieu nous discipline aussi. Puis bon, merci Seigneur qui nous discipline. Il fait par amour. Quand il parle dans Hébreux 12 et 13, là, il dit, c'est comme un père qui nous châtie. C'est par amour qu'il nous châtie pour nous corriger, pour nous ramener dans la bonne voie. C'est la même chose dans l'assemblée. Quand il y a quelque chose qui doit être corrigé, bien, ça doit être corrigé, mais ça doit être fait dans l'amour. Il y avait un frère, c'était un ancien dans une assemblée, puis il parlait d'un couple qui avait été mis sous discipline. Puis il dit, ils ne sont même pas venus pour voir les saints pleurer sur eux autres. Parce que c'est dans l'amour, c'est une chose vraiment triste qui doit être faite pour corriger. Puis Paul l'avait dit aux Corinthiens dans sa première épître de faire la discipline envers un frère qui était parmi eux, qui avait fait des choses qui étaient même pires que ce qu'on voyait dans le monde. Mais on voit que. Après, quand il s'est repenti, ben là, Paul exhorte dans la deuxième épître aux Corinthiens de le recevoir maintenant, puis même de le recevoir, d'aller au-devant de lui, comme le père de l'enfant prodigue qui a couru vers son fils prodigue qui s'en venait vers lui pour aller l'entourer. Puis Paul il dit pour les Corinthiens, de peur qu'il ne soit affligé d'une tristesse excessive, parce qu'ils veulent maintenant l'encourager puis lui pardonner. Puis l'encourager pour qu'il puisse continuer à être avec eux pour être édifié puis participer encore dans l'assemblée avec tous les soins. Parce que dans l'assemblée, on a des soins, on a des privilèges, on a des responsabilités, mais c'est un endroit où on peut grandir, on peut être édifié, exhorté, puis on peut servir aussi. Donc, c'est important, mais on sait qu'on a un témoignage commun, et mon témoignage dans le monde est le témoignage de l'Assemblée. La façon que je me comporte dans le monde envers les gens du dehors, ils vont juger l'Assemblée ou ils vont connaître l'Assemblée par rapport à ce que moi, de la façon que j'agis. C'est pour ça qu'on est membres les uns des autres. Il faut faire attention puis réaliser cette responsabilité-là qui est grande. Si l'Assemblée a un bon témoignage entre eux, mais que moi, dans mon milieu, je n'ai pas un bon témoignage, ben, je vais affecter. Puis pour les gens de mon entourage, ils vont dire, ah, oh, c'est ça des chrétiens. C'est ça, puis ils vont juger l'Assemblée en rapport avec ma façon d'agir. Puis aussi, ça fait en sorte que des fois, les païens vont blasphémer le nom de Dieu à cause de ma façon d'agir. Donc, c'est important de faire attention à notre témoignage collectif. Mais, donc, comme dans le verset 32 du chapitre 4, il disait, être bon et compatissant, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, c'est toutes des choses qu'on a, d'être bon les uns les autres, les uns pour les autres, d'être compatissant, de comprendre le malheur des autres, puis d'aller au-devant. Le Seigneur Jésus avait de la compassion pour les foules. Quand il prêchait, il avait de la compassion pour les foules parce qu'il dit qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Mais c'est parce que les bergers d'Israël ne prenaient pas soin de leurs brebis. C'est pour ça qu'ils étaient éparpillés. Puis le Seigneur, comme le bon berger, lui est arrivé, puis a commencé à les enseigner, puis au point qu'il a montré de la compassion envers eux autres, tellement qu'ils étaient attachés à lui, tellement qu'ils passaient comme une fois à la multiplication des pains, ça faisait 3 jours qu'ils étaient avec lui sans manger. Imaginez-vous comment qu'ils avaient besoin, comment que ces brebis-là avaient besoin des soins d'un bon berger. Puis le Seigneur Jésus était ce bon berger-là pour eux. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention à nous, qu'on prenne soin les uns des autres, là. Puis qu'on doit faire attention dans nos communications. Voyez-vous, verset 3 à 5, il dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, c'est important dans nos communications, par amour, qu'on ne soumette pas nos frères et sœurs à des conversations comme ça, là, des paroles équivoques ou des choses qui vont les décourager, là. Faire attention dans nos communications. Puis on pourrait dire, quelle odeur qu'on laisse derrière nous quand on a rencontré des frères et des sœurs. Ça, c'est important. C'est par amour qu'on fait ça. Puis c'est bon pour nous autres aussi parce que ça nous attriste si on est dans ces choses-là. Mais si on est une pierre d'achoppement ou qu'on est une mauvaise odeur pour nos frères et sœurs, quand on se rend compte, ben, qu'en est-il de Dieu qui, lui, n'aime pas ces choses-là, puis qui entend nommer ces choses-là parmi ses enfants? Vous savez, quand on est des parents, puis qu'on aime nos enfants, on veut les soustraire à des choses qui vont les décourager ou qui vont les attrister. On veut les soustraire à cela. Dieu, notre Père, il va vouloir aussi que quand on est ensemble, que ce soit une belle harmonie, que ce soit des choses merveilleuses qui occupent nos pensées. Puis, on a le 1 Corinthiens 13 là, qui nous parle de l'amour. C'est un beau chapitre. C'est ça, dans la parole de Dieu, il y a des chapitres sur certains sujets qui nous donnent vraiment. C'est comme un sommaire. Ici, c'est le sommaire de l'amour. Dans 1 Corinthiens 15, c'est le sommaire de la résurrection. Puis il y a les dons dans le chapitre 14. Mais dans le chapitre 13, il nous parle de l'amour. Puis c'est un beau chapitre à méditer. Souvent, dans les mariages, on va mentionner ce passage-là, mais ce n'est pas juste dans le mariage. C'est envers les chrétiens, puis aussi envers le monde. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça n'a pas de valeur. C'est comme on aurait toutes les grandes choses. Il dit, ce qui est plus grand, c'est l'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et vous, comment que l'amour est un ingrédient tellement important? Toutes ces choses-là sont bonnes, mais si le motif derrière ces choses-là n'est pas l'amour, c'est c'est des paroles en l'air, c'est des actions en l'air. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Et vous, c'est toutes des choses qui nous aident à comprendre vraiment c'est qu'est-ce qu'est l'amour. Puis il dit, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Fait que Paul est en train de donner ici toute une instruction comment fonctionner. Il parle des dons, puis l'utilisation des dons. Mais à travers tout ça c'est dans l'assemblée. Il dit que le motif derrière tout doit être l'amour. Puis comment on ferait des grandes choses si le motif derrière tout cela n'est pas l'amour? Ben, on est une cymbale qui retentit. C'est juste des paroles en l'air. On peut dire des choses, mais s'il n'y a pas la réalité derrière, comme il dit ici, de devenir des imitateurs de Dieu, puis de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande, s'est livré à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, ben, ça ne veut rien dire. Donc, vous voyez comment l'amour est important. Maintenant on a connu l'amour de Dieu, ben, on doit marcher à l'exemple de Christ, puis marcher dans l'amour. On va s'arrêter là pour ce soir, puis on continuera avec la prochaine fois de marcher dans la lumière. Donc, je vous donne la possibilité maintenant de reprendre votre micro et de pouvoir faire des. OK. De pouvoir apporter des commentaires ou demander des questions. Avant la discussion, comme on a d'habitude, avant la fin.
Il y aurait peut-être deux questions.
OK.
Je veux pas te décourager, là, encore une fois.
Ouais, OK. Non, c'est bon, les questions.
Disons, le verset qui dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné.
Ouais.
Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle ici, ni dans le siècle à venir. On sait ici dans le contexte que les pharisiens avaient accusé Jésus de chasser les démons par le prince des démons. Alors, si j'annonce l'évangile à quelqu'un et que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cette personne-là, puis l'amène à comprendre qu'il a besoin d'être sauvé, perdu dans ses péchés, parce que le Saint-Esprit est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Et si cette personne-là, suite à cette rencontre, elle décide de tourner le dos, est-ce qu'on peut calculer ça aussi comme étant, disons, un blasphème contre le Saint-Esprit?
Mais je crois vraiment que quand on parle ici, quand il nous parle de ça, c'est devant les chefs religieux juifs ici, là, qui est le Seigneur, parce qu'eux, ils voyaient chasser les démons, puis ils attribuaient la puissance, c'était vraiment par la puissance du Saint-Esprit qu'il faisait ces œuvres-là, comme un signe de la part de Dieu qu'il était vraiment le Messie, là. C'était l'évidence qu'il était le Messie que Dieu avait envoyé à Israël. Mais quand il attribuait cette puissance-là, la puissance du Saint-Esprit à Satan, ben ça, c'était un péché qu'eux faisaient. Puis qui dit qu'il ne leur serait pas pardonné ce péché-là. Mais si quelqu'un, on voit par exemple comme dans Hébreux 6, là, tu sais, quelqu'un qui a été amené, il y a eu part au Saint-Esprit, il y a eu une œuvre de conviction, puis qui se détourne. Ça ne veut pas dire, même s'il dit qu'il a goûté au siècle à venir, puis il y a eu un travail du Saint-Esprit qui se fait, puis il y a un travail du Saint-Esprit qui se fait en nous avant d'être sauvés. C'est de la conviction de notre péché, la conviction que c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous sauver. Et si on rejette à ce moment-là, ben là, c'est rejeté en pleine connaissance. Ça, mais ce n'est pas quelqu'un qui était sauvé, ça. C'est quelqu'un qui n'a pas été sauvé, qui est venu au bord, un peu comme Judas, qui a embrassé la porte du ciel, puis qui s'est détourné. Mais c'est ça. C'est difficile pour nous autres de juger quelqu'un si quelqu'un est venu à ce point-là. Moi, c'est ma croyance que j'ai par rapport à ça, c'est que si, puis on a vu, j'ai vu déjà des gens qui étaient tellement près d'être sauvés qu'on pensait quasiment qu'ils l'étaient, puis ils se sont détournés, puis après ça, il n'y a plus de repentance.
Merci.
Mais le péché contre le Saint-Esprit, je crois, c'est vraiment Israël ici, les chefs religieux qui attribuaient devant l'évidence de la puissance de Dieu par le Saint-Esprit, ils attribuaient ça à Satan.
OK, merci,
Ouais.
Gérald. Ma deuxième question, on a parlé de renoncer au mensonge.
Ouais.
Si nous ne disons pas toute la vérité, ou on dit une partie de la vérité, est-ce que c'est un mensonge?
Ben, ça dépend. Est-ce qu'on communique la vérité? C'est pas qu'on peut, c'est pas juste dans nos paroles, mais est-ce qu'on communique la vérité ou en retenant une partie de la vérité, des fois, c'est un mensonge. Parce que qu'est-ce que l'autre va déduire de ce que j'ai dit? C'est un peu comme quand le premier officier il a dit le capitaine était sobre aujourd'hui, c'était la vérité. Mais ça l'impliquait un mensonge. Ça l'impliquait que ce n'était pas quelque chose d'habituel. Fait qu'il faut faire attention. Puis des fois aussi, si on ne dit pas, qu'est-ce qu'on va communiquer à l'autre quand on a dit qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va laisser planer quelque chose? On va dire, des fois, on va dire, ah, il a bien fait ça, mais. Puis même si on se tait après ça, là, ben, il y a quelque chose, ça continue dans la pensée de l'autre. Il y a un ombre là, sur ce qu'on a dit, là.
Bon, merci beaucoup, Gérard.
On voit aussi, Gérard, que Satan a fait la même chose dans le Jardin d'Éden avec Ève. Hein?
Ouais.
Il a appliqué la même chose.
Ouais.
C'était le doute.
Je doute,
Il y
c'est
avait le
ça.
doute, comme tu dis, pour le capitaine.
Ouais.
Ça l'a introduit un doute dans le cahier de bord.
Ouais.
Moi, Gérald, j'aimerais ça apporter Éphésiens 5,
Oui.
puis verset 4.
OK.
Qu'on n'entende pas, je lis une version,
Ouais.
qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. C'est inconvenant.
Ouais.
Puis, dans d'autres versions, excusez, là, j'ai perdu mon.
Oui.
Dans d'autres versions, il va dire qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce.
Oui.
Quand je regarde la vie du Seigneur Jésus, je me souviens pas que le Seigneur Jésus ait ri. D'abord, juste le rire, mais juste aussi qu'il ait eu aussi des jokes dans sa vie. Nous autres, les Québécois, on aime bien ça faire des jokes, là. Mais quand on fait des jokes, j'ai peur que des fois, on passe les limites facilement. Fait que
Exactement.
la vie du Seigneur Jésus me donne beaucoup à réfléchir du fait que, bon, évidemment, il était ici pour une mission. Je comprends qu'il y avait comme un fardeau en lui d'accomplir sa mission. Mais je ne vois pas de joke, je ne vois pas de rire dans la vie du Seigneur Jésus. Et nous autres, évidemment, Québécois, on aime bien ça rire, là.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'il y en est? As-tu une opinion là-dessus? Je ne veux pas te piéger, là,
Non,
mais
je comprends.
il
Non, mais c'est
me
sûr
semble
que
qu'il y a quelque chose que.
c'est sûr que c'est un verset qui nous met beaucoup à l'épreuve, parce que oui, comme tu dis, là, je pense pas qu'on doit être sombre. Il y a un frère qui, lui, il croyait vraiment qu'il fallait jamais rire. Je pense pas que c'est de cette façon-là, mais faut faire bien attention comme tu dis, des jokes, là. Il y a beaucoup de jokes qui sont pas bien, là. C'est que ça communique pas quelque chose de bien, là. Ça laisse qu'est-ce que ça laisse à l'autre, là? Tu sais, est-ce que ça laisse une mauvaise odeur, là? C'est ça qui. Puis à nous autres aussi, parce que ça nous attriste, nous autres aussi, quand on fait des jokes comme ça. On sait que dans le monde, les autres, ils vont faire des jokes. Comme une fois, au travail, il y avait un gars qui a fait une joke sur les marques, les clous dans les mains du Seigneur Jésus, puis j'ai pas ri. Puis là, il est resté comme un petit peu bête, tu sais, mais tu peux pas rire à des choses comme ça, là. Ça fait qu'après, il y avait d'autres personnes là, mais après je suis allé le voir en privé, puis je lui ai dit, regarde, moi je peux pas rire de ces choses-là parce que les clous dans les mains, là, il les a eus à cause de mes péchés. Ah, il dit, excuse-moi. Mais comme tu dis, entre nous autres, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, très attention, parce qu'on est porté, c'est comme une faiblesse qu'on a de faire des farces comme ça. Mais par contre, je veux pas dire qu'on ne peut pas rire. Vous savez, je lisais un livre d'un missionnaire une fois, qui était en Afrique. Puis c'est drôle parce que tout d'un coup, là, il s'est mis à parler d'un gars qui était arrêté de les visiter. Puis là, il disait qu'il avait passé une soirée à rire, là. Puis je me suis dit, pourquoi qu'il compte ça? Pourquoi qu'il dit ça, tu sais, dans son. Après ça, j'ai réalisé, tu sais, quand les autres étaient en mission, dans des problèmes, dans des difficultés, tout seul, isolé. Puis tout d'un coup, cet homme-là est passé, puis il les a fait rire. Il les a détendus quand même, tu sais. Puis je me suis dit, regarde, c'est pour ça qu'il a mentionné ça dans son livre. Tu sais, c'était pour eux autres comme. Mais c'était pas des choses qui étaient équivoques ou des plaisanteries, des mauvaises plaisanteries, là. Mais il les avait fait rire, ça les avait détendus, ça les avait changé les idées de toute leur situation. Fait que je crois pas qu'on doit être sombre dans le sens que jamais qu'on rit, là, mais il faut faire attention. Il y a des choses qui peuvent être saines quand même, qui peuvent être drôles, là, tu sais, mais il faut faire attention.
Y a un
J'ai
beau
aussi
verset en
appris à un moment
arrière.
donné. Pardon? OK.
Vas-y,
Attends.
Daniel. OK. Il y a un beau verset qui dit dans la parole, Réjouissez-vous dans le Seigneur et pleurez avec ceux qui pleurent.
Ouais. Il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent. Ouais. Raymond, tu veux.
Ce que je voulais dire, c'est que les plaisanteries, c'est écrit dans la parole qu'on aura à rendre compte des paroles vaines qu'on aura dit. Ça fait partie des paroles vaines, je crois.
Oui, c'est ça.
Il y a, dans l'Ancien Testament, ça me fait toujours penser à hein, Abraham qui plaisantait avec Sarah.
Ouais.
C'est comme ça que le roi il a compris que c'était sa femme et non pas sa
Ouais.
sœur.
Ouais.
Donc, on voit que ça rentre aussi dans l'autre version, dans les paroles, dans ce qui est équivoque. Donc, les choses à double sens ou qu'il y a une
Ouais.
connotation le supplémentaire, c'est
Oui.
à ça qu'il faut faire attention pour pas qu'il y ait une
Oui.
connotation double dans les plaisanteries ou on va dire dans les farces qu'on fait.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça communique une grâce? C'est le test, là.
Et moi, je dois dire que quand je
On
suis
s'en est
avec Aurèle, Fabiola puis David, qu'on se retrouve ensemble, j'aime beaucoup David quand il taquine.
Ouais,
Vu
c'est
qu'on a
ça.
du plaisir, on a
Ouais,
beaucoup de joie d'être ensemble.
c'est ça. C'est pas mauvais. Mais des fois, il faut faire attention en taquinant les autres qu'on les blesse pas non plus. Parce que des fois, il y a des taquineries qui peuvent blesser, mais il y a des façons de taquiner qui ne blessent pas, là. On est sûr. Puis si jamais on offense quelqu'un, ben, d'avoir l'humilité pour aller demander pardon, puis régler la situation, là. Il faut faire bien attention à ça aussi, là.
Parce que
Ça fait penser que.
Sarah, elle a voulu rire. Sarah, elle a voulu rire quand le Seigneur lui a dit qu'elle aurait un enfant.
Oui.
Non. C'est pour ça.
Oui.
Gérald, ça fait penser à une famille. Des fois, on partage quelques frères ensemble avec des. Et on dit on est toute famille. Non, on n'est pas une famille. On est un corps.
D'accord,
Il y a un corps, là.
oui.
Tout communique ensemble, tout est en fonction de tout.
Ouais.
Si tu te blesses,
Ouais.
le corps souffre.
Ouais.
Si tu te réjouis, tout le corps se réjouit.
Ouais, c'est ça, on n'est pas indépendants les uns des autres, on est étroitement liés, puis ça, c'est important, oui.
Faut pas être familier, il faut être plutôt respectueux de notre corps.
Ouais,
Le corps, c'est
dans
tout.
le.
Et c'est très difficile parce qu'on sait qu'on a tous nos caractères, mais
Oui, c'est ça.
c'est garder l'amour que le Seigneur a mis en nous.
Ouais.
Il faut l'entretenir, c'est comme un feu. Il faut
Ouais.
l'attiser, il faut l'alimenter. Il faut s'en réjouir que le Seigneur nous a donné un corps.
Ouais, il faut agir avec des prévenances réciproques. Faire attention toujours, puis c'est comme c'est important de, si on se taquine, de pas faire bien attention pour pas se blesser, parce que des fois, ça peut blesser, ouais.
Surtout s'il y a des nouveaux croyants,
Ouais.
il faut faire là, faut être plus
Ouais.
vigilant, plus
Ouais.
respectueux, parce qu'ils vont voir que il faut qu'ils voient que notre vie chrétienne, notre vie dans le Seigneur, c'est quelque chose de bien, c'est merveilleux. C'est comme le jardin d'Éden, quand on vient au Seigneur, on rentre dans le jardin d'Éden. Mais après, les épines, les ronces apparaissent parce qu'on sait que notre vieille nature est toujours
Ouais, c'est ça. Ça marche, tant que le temps est arrivé. On va terminer avec un mot de prière. Ceux qui veulent continuer à jaser, on peut jaser, mais ceux qui doivent partir pourront le faire. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois. On sait que ces choses-là, ça nous met à l'épreuve, Seigneur, parce que ça nous examine. Puis on te remercie parce que toi, dans ta parole, tu nous dis toujours les choses qui sont bien. Et on a besoin, Seigneur, de s'examiner, puis de voir s'il n'y a pas quelque chose en nous qui va nuire à notre relation. Comme notre frère disait, on est un corps, et un corps, c'est lié intimement ensemble. On est vraiment intimement liés ensemble par l'amour que tu nous as manifesté, par le rachat que tu nous as pourvu, puis le fait que tu as fait de nous ton corps. Merci encore une fois, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont là. On te demande de bénir, de protéger, puis de nous donner d'avoir cette joie dans nos cœurs, Seigneur, de connaître ton salut. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.